Vivre FM, podcast.
Au plus près de la recherche, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Si vous êtes un fidèle auditeur de Au plus près de la recherche, vous avez sûrement déjà entendu parler du programme Autisme et Nouvelles Technologies, programme qui est soutenu par la Fondation UEFA pour l'Enfance et mis en œuvre par la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cela, ce n'est pas grave puisque nous allons passer les prochaines minutes à en parler avec celui qui a coordonné la réalisation d'une revue de littérature élaborée dans le cadre du programme de recherche. La revue en question porte sur les questions de l'usage des outils numériques dans l'aide à la communication non verbale et à l'interaction sociale chez les jeunes de 2 à 18 ans qui vivent avec des troubles autistiques. Et c'est Philippe Garnier, docteur en sciences de l'éducation, que j'accueille en plateau aujourd'hui.
Bonjour, alors j'utilise l'iPad pour apprendre à bien articuler et pour monter la voix et pour bien écouter. Voilà, donc j'apprends. Et les iPads aussi, on utilise pour les loisirs, pour regarder les centres d'intérêt des autres. Moi, je trouve que c'est bien.
Alors, on utilise l'iPad en séance d'orthophonie pour travailler différentes compétences. Ça peut être des compétences de logique, ça peut être des compétences de récit, des compétences aussi de communication, pour travailler l'expression des émotions. Et puis, on utilise aussi l'iPad comme outil pour la communication. C'est un moyen de mettre en place une communication alternative. C'est un bon support pour ces difficultés qu'on peut rencontrer ici pour la communication. Après, avec Jawad, en séance d'orthophonie, on utilise l'iPad pour travailler l'articulation, la voix, les intonations. On s'enregistre pendant qu'on travaille et ensuite, on s'écoute. Et ça permet à Jawad de s'entendre parler et du coup de rectifier ses productions.
On rentre directement dans le vif du sujet avec ce petit son enregistré aujourd'hui même à l'IME Cour de Venise, l'Institut médico-éducatif qui accueille 22 adolescents, 22 jeunes qui ont des troubles autistiques, ils ont entre 12 et 18 ans. Et l'IME Cour de Venise teste depuis quelque temps du matériel technologique dans le cadre du programme Autisme et Nouvelles Technologies dont on va parler avec vous, Philippe Garnier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord d'être en plateau. Donc voilà, au long de cette émission, on écoutera quelques sons de l'IME. Ça permet de donner un bon exemple concrètement de ce début de recherche, ou en tout cas, on a fourni du matériel technologique à des IME pour que les enfants et les professionnels testent cela. Un petit point du coup sur cette recherche autisme et nouvelles technologies, on va présenter peut-être le contexte de la revue et donc présenter un peu à nos auditeurs de quelle est cette revue de littérature et pourquoi surtout est-ce que vous avez coordonné une revue de littérature à ce stade?
Alors, ça s'inscrit dans un projet global autour de l'autisme et des nouvelles technologies. Donc, effectivement, le projet, c'est déjà de fournir, donc, comme vous l'avez dit, à des établissements, à des services, un certain nombre d'outils numériques, hein, des tablettes, des tableaux numériques interactifs, etc. Et puis, à travers un certain nombre d'actions, dont la revue de littérature, mais aussi d'autres actions qu'on a commencé déjà à mettre en place comme des questionnaires, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe justement quand on introduit ces outils numériques auprès de ces services, auprès qui vont donc servir aux enfants avec autisme. Et puis, par la suite, on pourra effectivement sensibiliser d'autres familles à partir des retours que nous ont donnés ces services, d'autres familles, d'autres services à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc, on a plusieurs axes dans ce projet. Le premier axe, c'est effectivement autour de la revue de littérature pour voir ce qui s'est déjà fait dans le passé, quel type de recherche, quel type d'action ont été menées avec les outils numériques pour des enfants avec TS. Ça. Donc, dans ce cadre-là, j'ai coordonné une équipe de six personnes de six pays différents qui sont des pays européens, la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l'Irlande. Alors, ces personnes qu'on appelle le groupe de travail, ce sont des personnes qui sont ou chercheurs ou alors qui sont des personnes des associations. Hein, donc, il y a un petit peu un mix pour avoir des gens de terrain, des gens dans la recherche, pour essayer effectivement de trouver ensemble des articles, des actions qui ont été faites autour des outils numériques et l'autisme. Donc effectivement, on a dans un premier temps, on s'est donné un certain nombre de mots-clés pour essayer de chercher à travers les bases bases de données d'Internet, des revues, des articles qui concernaient ce domaine, hein, donc sur les iPads, sur les ordinateurs. Et puis, donc, à partir de là, bon, j'ai fait un travail donc de revue, j'ai cherché un certain nombre de choses, j'ai écrit quelques fiches de lecture qu'on pourra trouver dans la revue de littérature. Donc, ces fiches de lecture, ce sont en quelque sorte des résumés de certaines de ces actions, de certaines de ces recherches concernant les outils numériques. Et puis, le groupe de travail a travaillé dessus pour essayer de rendre quelque chose de cohérent pour être publié sur le site de la FIRA.
Si je vous suis bien, et pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers des processus de recherche et du partage d'informations, en gros, une des problématiques qu'on a dans la recherche, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites. Les chercheurs, eux, s'intéressent effectivement à ce qui a déjà été fait en l'occurrence, mais il n'y a pas forcément, en tout cas, le processus de partage de ces informations, de savoir où les trouver, pas forcément optimal aujourd'hui. Et si on est étudiant ou parent d'enfants autistes et qu'on veut se renseigner, c'est toujours un petit peu compliqué de devoir à nouveau passer des heures à faire toutes les recherches. Donc, en fait, vous avez simplifié la vie de ce public-là en disant, bah voilà, plutôt que tout le monde perde du temps, il y a un moment, on va s'arrêter. Et puis, on va nous vous proposer directement tout un tas de recherches à découvrir dans la revue de littérature. C'est vrai que le nom revue de littérature, il porte aussi un peu à confusion. Des fois, les gens vont être un peu effrayés par ça. Mais en fait, c'est comme une note de synthèse, un résumé de recherches qui ont été sélectionnées sur le thème autisme et nouvelles technologies. Et ça va nous permettre, en tout cas, d'y avoir accès de façon simplifiée. C'est un petit peu ça l'idée.
Tout à fait. Effectivement, d'habitude, les articles de recherche ne sont pas forcément très accessibles pour les familles ou pour les professionnels de terrain. C'est vrai que ce sont des revues assez spécialisées. Les bases de données, ce sont des bases de données qui sont connues par les scientifiques, mais qui ne sont pas forcément, dans de rares cas, connues à la fois par les familles et par les professionnels. Donc là, on voulait faire quelque chose d'assez grand public, hein, et que ce soit diffusé de manière libre, en l'occurrence sur le site de la FIRA, mais que tout le monde puisse y accéder, avec un style aussi qui, tout en restant rigoureux, est quand même très accessible à tout un chacun. Hein, donc on a essayé effectivement de résumer les recherches qui avaient été faites et de les présenter de manière simple, accessible, et puis surtout aussi de montrer en quoi ces recherches pouvaient être utiles, susceptibles de donner des pistes pour les pratiques. Hein, c'est pas simplement des résultats de recherche qui resteraient dans le monde de la recherche et pour les chercheurs, mais aussi à travers un certain nombre de commentaires qu'on a fait par rapport à ces articles, et ben de voir en quoi ils pouvaient donner déjà des premières pistes d'action aux professionnels et aux parents qui utilisent ou qui souhaiteraient utiliser ces outils numériques.
Alors, les recherches, elles ont été sélectionnées sur des critères bien spécifiques, vous l'avez dit, notamment le côté concret, c'est-à-dire recherche appliquée. Il faut que ça puisse améliorer l'ordinaire des personnes handicapées dès aujourd'hui, dès à présent. Qu'est-ce qu'on peut avoir, pour rentrer un peu pareil, dans le vif du sujet de ces recherches, comme type de recherche, comme exemple à donner sur les recherches concernées?
Alors, déjà dire que, en fait, notre revue de littérature, elle s'est focalisée quand même sur des points bien précis qui tournent autour des interactions sociales et de la communication verbale, des choses, de la communication non verbale, des choses qui posent problème, hein, aux enfants avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, on a trouvé je vais vous donner donc quelques exemples, par exemple, autour des émotions. La reconnaissance des émotions pose souvent problème à des enfants, voire même avec des adultes avec TSA. C'est-à-dire, quand on a une communication entre nous, on comprend bien sûr la parole, mais on comprend aussi les mimiques des visages et on estime parfois il y a une même parole qui prend un sens différent selon qu'on cligne les yeux, qu'on fasse un petit sourire, etc., etc. Et souvent, justement, les personnes avec autisme ont du mal à comprendre tout ce qui relève de cette communication non verbale, de ces émotions qui apparaissent dans le visage. Et en fait, il y a des programmes d'entraînement sur le numérique qui ont été faits justement pour reconnaître les émotions à partir de visages. Du visage, d'un visage souriant, d'un visage qui fait la grimace, etc., etc. Donc, il y a des articles de recherche qui traitent justement de voir en quoi ces programmes ont pu mener à des progrès au niveau de la reconnaissance des émotions auprès d'enfants présentant des troubles du spectre autistique. Alors, toujours en parlant des émotions, on peut donner un autre exemple qui est assez intéressant de mon point de vue. Ce sont des expériences qui ont été menées avec des DVD qui non pas représentent des émotions figées, mais qui représentent des petites scénettes de la vie quotidienne. Et dans cette scénette, un personnage est censé vivre une scène qui déclenche une émotion. Par exemple, un enfant va rencontrer d'autres enfants qui ne veulent pas avec lui. Comment va se sentir cet enfant? Est-ce qu'il va se sentir triste, joyeux, en colère? Et donc, à travers des logiciels, des vidéos, on présente ce genre de choses à des enfants avec TSA et ils doivent trouver la bonne émission, la bonne émotion qui correspond au contexte dans lequel se déroule l'action. Donc voilà, deux exemples de recherche, par exemple, qui concernent un travail spécifique sur les émotions.
Alors, on parle d'enfants qui ont des troubles du spectre autistique. On sait que voilà, l'autisme, c'est un trouble neurologique qui a un impact donc sur la communication, sur les interactions. Est-ce que les outils et les recherches qui sont concernés dans cette revue de littérature portent sur tous les types de troubles autistiques? Est-ce qu'on parle ici de quelques-uns de l'autisme, ce qu'on appelle de haut niveau? Peut-être vous préciserez pour nos auditeurs peut-être de quoi il s'agit. Ou est-ce que non, là, on s'adresse effectivement à n'importe quel enfant ou adulte d'ailleurs qui a des troubles autistiques?
Donc les études sont assez variées, hein. Il y a effectivement des études qui concernent uniquement des autistes de haut niveau, c'est-à-dire qui n'ont pas de déficience intellectuelle associée, hein, qui ont juste des difficultés au niveau relationnel, des interactions sociales, d'une communication du côté pragmatique de la communication. Et puis, bon, il y a quelques recherches qui concernent également des élèves avec troubles du spectre autistique, mais qui ont des déficiences associées. Mais peut-être pas assez, justement. Hein. C'est-à-dire que quand on va effectivement dans le cadre de notre projet, notamment quand les praticiens vont mettre en œuvre leurs actions, c'est souvent avec des enfants qui ont quand même des petites déficiences intellectuelles associées. Et dans la recherche, c'est vrai qu'il y a quand même une grande proportion de ces études qui ont lieu avec ce qu'on a appelé effectivement des autistes de haut niveau. Mais il y a un peu de tout.
Il y a un peu de tout et il y a notamment Luz qu'on va retrouver à l'IME Cours de Venise tout de suite et écouter justement cet enfant qui a une verbalisation difficile pour le moins et en quoi son iPad, sa tablette l'aide à mieux communiquer.
Donc Luz, elle n'a pas de langage verbal mais elle a néanmoins l'envie de communiquer, elle est curieuse, elle est en train de tout regarder, de voir ce qui se passe. Donc le système d'échange d'images lui permet de communiquer et de pouvoir nous demander tout ce qu'elle veut en faisant des petites bandes phrases, en associant des pictogrammes. La différence avec le fait qu'on ait passé son outil de petits picto-papiers sur la tablette, ce qu'on disait, c'est que ça permet d'avoir une synthèse vocale et de vraiment lui permettre de s'exprimer. Donc là, elle veut de l'eau, donc on va très vite lui donner de l'eau, mais elle veut faire tout un tas de demandes et elle s'en sert tout le temps au quotidien et ça lui permet vraiment d'interagir. Alors elle interagissait, mais avec un langage oral et surtout d'être comprise de davantage de personnes, notamment de ses camarades à qui elle peut faire des demandes aussi.
Du pain. Je veux salade.
C'est bientôt midi.
Salade.
Donc ça a l'air d'être peu de choses de l'avoir faire une demande, mais en termes de qualité de vie, c'est un impact extraordinaire qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse avoir un impact sur son environnement, qu'elle puisse demander, là, c'est des loisirs, mais parfois c'est des demandes plus fondamentales quand elle a faim, quand elle a soif, quand elle est fatiguée, quand elle a besoin de quelque chose. Donc ça a vraiment, ça change sa manière d'être et de fonctionner avec davantage d'impact sur son environnement. Donc ça, c'est très, très, très important pour son évolution et pour sa qualité de vie.
11h midi, recherche et partage avec la FIERA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Nous écoutions à l'instant Luz de l'IME Cours de Venise et Marie Schuster, la psychologue qui s'exprime après. Alors Luz, elle a un outil très intéressant qui est une tablette numérique sur laquelle il y a des icônes et en bougeant ces petites icônes, elle peut communiquer, elle peut dire j'ai faim, j'ai soif. Et elle dit d'ailleurs souvent, la petite icône qui dit repasse-moi la tablette numérique avec les jeux, finalement. Ça, elle aime beaucoup cette petite icône-là. Mais tout ça pour dire que Philippe Garnier, vous avez donc coordonné cette revue de littérature qui traite de l'autisme, des recherches de autisme et nouvelles technologies. Mais il y a confusion, en tout cas chez moi, donc j'imagine peut-être chez d'autres auditeurs aussi, entre ce qu'on appelle la communication non-verbale, et puisque vous me disiez là, dans le cas de Luz, c'est de la communication augmentée, on n'est pas tout à fait dans le même domaine. Est-ce que quand même si la revue de littérature ne parlent pas vraiment de communication augmentée, on est quand même un petit peu dans les mêmes domaines.
On est effectivement dans le domaine de la communication. Dans la revue de littérature, on a voulu se limiter quand même parce que le champ des possibles était extrêmement large. On a voulu se limiter à des choses bien précises qui sont les interactions sociales et la communication non verbale. Alors, ce qu'on appelle communication non verbale, ça va être toute la communication qui ne va pas être par les mots, en fait, donc qui va être par les gestes, les postures, les mimiques, les expressions. Donc c'est là-dessus, en fait, que porte la revue de littérature. Dans l'extrait qu'on a entendu, on a parlé donc de communication alternative, hein, ou de communication augmentée. Donc il s'agit par l'intermédiaire de pictogrammes pour des personnes, pour des enfants qui n'ont pas la possibilité de parole comme vous et moi, de pouvoir néanmoins s'exprimer grâce à ces pictogrammes. Et quand on a un appareil numérique, comme une tablette par exemple, donc effectivement, le professionnel pourra injecter à l'intérieur du programme ses propres pictogrammes papier. Il pourra même s'enregistrer en disant le nom de l'objet considéré. Et à partir de là, on aura de la communication augmentée, de la communication alternative par l'intermédiaire de cet appareil iPad, Android, enfin des tablettes.
En tout cas, alors l'iPad et le tableau numérique en ce qui concerne l'IME de Cours de Venise, c'est le type de matériel qu'a reçu l'établissement et qui sont en train de tester auprès des adolescents. Je lisais aussi dans la revue de littérature justement l'importance carrément des robots, que les jeunes autistes avaient souvent plus de facilité des fois à comprendre ou en tout cas à suivre, on va dire, ou à imiter des mimiques faites par donc des objets numériques, alors je ne sais pas si on peut dire ça pour un robot, plutôt que des humains. Voilà, j'ai vu ça dans un des types de recherches dont on parle.
Alors effectivement, il y a un champ de recherche à part entière qui concerne la robotique et l'autisme, alors qu'il y a été, il y a même des chercheurs français, hein, qui, ça fait déjà quelques années, comme Jacqueline Dindel, qui ont fait des travaux là-dessus. Et puis tout récemment, donc, ce champ de recherche est toujours en activité. Donc l'hypothèse, effectivement, c'est que Ça tombe bien par rapport à notre question de communication non verbale, puisque en général, on se dit que les personnes avec autisme ont des difficultés à comprendre les mimiques, enfin tout ce qui va parasiter finalement le message, et parce qu'ils vont voir qu'un bout de lèvre qui se déplace, un œil qui s'ouvre, sans pouvoir les interpréter. Or le robot est beaucoup plus neutre à ce propos. Donc le robot, enfin en tout cas c'est une hypothèse qui a été pour l'instant, qui est quand même en cours de validation. Hein, il faut savoir quand même que le champ du numérique au sens large, hein, on va placer la robotique dans le cadre du numérique, est quand même un champ qui est relativement neuf, où on n'a pas des résultats qui sont complètement aboutis. On dit c'est sûr qu'il faut utiliser un robot mieux qu'une personne réelle. On n'en est pas là. Mais il y a des pistes, effectivement, qui, pour les raisons que je viens de vous dire, pour des raisons donc de neutralité du robot, de gestes qui sont un petit peu tout le temps les mêmes, qui sont prédictibles par l'enfant et pas des gestes désordonnés comme on peut le faire nous. Donc c'est une hypothèse qui a déclenché effectivement un certain nombre de recherches et tout un champ de recherche qui s'intéresse justement à cette question. Alors il y a des recherches qui concluent en la plus-value du robot par rapport à une personne, mais il y a des recherches aussi qui vont dans un autre sens. Donc ça reste un champ de recherche en ébullition, mais dont on ne peut pas conclure absolument dans une direction où le robot, ça y est, il faudrait mettre des robots partout.
Quand on parle d'outils numériques dans ces recherches, c'est des outils existants en développement. Là, à l'IME, par exemple, les outils qui sont testés, on va dire les outils numériques, ils existent en tant que tels. Et après, c'est toutes les applications qui viennent se poser dessus, qui vont faciliter la vie des personnes avec des troubles autistiques. Aujourd'hui, les outils, on les a, je dirais, c'est les applications qu'il va falloir adapter et en tout cas mettre en lien avec les personnes autistes.
Alors c'est vrai que dans le terme outil numérique, là, on le prend à un sens très large, aussi bien l'aspect matériel, c'est-à-dire ça va être la tablette, l'ordinateur, que l'aspect logiciel, l'application, qu'elle soit sur l'ordinateur ou sur la tablette. Alors dans les outils numériques, il y a ces choses courantes, l'ordinateur, la tablette, mais il y a aussi des objets qui pour l'instant sont assez peu présents dans les classes ou dans les instituts. Par exemple, il existe des grandes tables numériques, mais une table horizontale, c'est un petit peu un iPad géant, si vous voulez. Ça se vend, mais on en trouve très très peu dans les établissements. En revanche, il y a des recherches qui ont été menées par rapport à ce genre de matériel. Alors, ce genre de matériel, par exemple, de grande table numérique, peut être très intéressant. Je pense notamment à une recherche pour développer les interactions sociales où des enfants avec autisme devaient coordonner leurs actions sur la table, c'est-à-dire toucher la table en même temps et déplacer un certain nombre d'objets, mais de manière coordonnée, de telle manière à, c'était dirigé vers un but. Et donc, ceci fait travailler vraiment l'interaction sociale entre ces enfants. Mais voilà, là, je parle d'une recherche. Donc, il faut distinguer, effectivement, il y a tout un certain nombre d'outils qui sont utilisés en recherche relativement couramment. Et ce qu'on trouve, en fait, dans les écoles, dans les centres, ça va plutôt être en moyenne les outils courants. Donc, on parle des ordinateurs, les tablettes, les tableaux numériques interactifs. Mais on peut espérer que dans quelques années, en fait, ce qui était jusque-là utilisé en recherche entre peu à peu dans la vie courante et puis en particulier dans les établissements, hein, par exemple.
Et on va le voir avec Marie Schuster à nouveau de l'IME, ces outils finalement qu'on va rendre accessibles à des personnes avec des troubles autistiques, c'est les outils utilisés dans le milieu ordinaire par tout à chacun, par vous et moi.
La société évolue, c'est déjà cet enjeu pour nous de l'inclusion dans la société ordinaire. On ne peut pas miser sur l'inclusion si on est en décalage par rapport à ce qu'on utilise et si on crée nous-mêmes finalement un décalage encore plus grand avec les adolescents, je dirais, tout venant. Donc on a aussi cette mission, au-delà de vraiment de l'utilisation, de à chaque fois chercher à coller au maximum avec l'ordinaire pour ne pas les écarter davantage ou créer un sur-handicap alors qu'il y a déjà suffisamment de difficultés.
Communiquer avec les iPads, ce qui était bien, c'est que c'est plus discret qu'un classeur qu'on porte autour du cou, qui est quand même plus gros, et ça avait cet avantage-là aussi. Et puis c'est très facile d'utilisation. On peut créer des pictogrammes pour communiquer en une minute. On peut faire des photos avec l'iPad. On peut introduire cette photo dans l'application PEX avec laquelle on communique. C'est très rapide et très facile d'utilisation.
Et c'est Manuel Évrard qu'on entendait après Marie Schuster. Manuel, il est éducateur, lui, à l'IME Cours de Venise. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est que, tous les deux, ils disent, voilà, on va finalement permettre à des enfants avec des troubles autistiques, finalement, de pouvoir interagir comme tous les autres enfants. Hein, donc, c'est vraiment essayer de mettre tout le monde à égalité face à ça. Et puis, l'apport spécifique du numérique en termes de mobilité, en termes de aussi, c'est plus discret. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il donne l'exemple du classeur, c'est vrai que ça va être beaucoup moins stigmatisant pour un jeune de se présenter avec une tablette numérique qu'avec un classeur autour du cou.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, l'inclusion, hein, l'inclusion scolaire ou l'inclusion sociale. C'est d'avoir des signes les moins discriminants possibles. Alors, c'est vrai qu'un enfant qui va amener dans la rue, par exemple, à son classeur PEX, les gens vont se demander qu'est-ce que c'est.
Alors, PEX, pour nos auditeurs, oui, qui ne connaissent
PEX,
peut-être pas...
C'est un système d'échange d'images pour la communication donc, alternative. Hein, dans le système PEX, qui a priori est un système non numérique au départ. C'est un système d'images que l'enfant va donner à un interlocuteur pour faire une demande, par exemple. Donc, il veut manger, du pain, il va montrer un pictogramme représentant du pain pour se faire comprendre. Donc ça, c'est le PEX. Et donc, effectivement, quand un enfant va non pas avoir dans la rue ou à la boulangerie, si on reprend l'exemple du pain, un classeur de pictogrammes qui paraîtra un petit peu étrange, mais va avoir une tablette, la tablette, c'est un outil courant que tous les enfants du même âge peuvent avoir. Effectivement, dire que c'est peut-être un outil qui va permettre une inclusion meilleure, c'est-à-dire moins de discrimination, hein, parce que c'est l'outil de tout un chacun. C'est pas un outil très spécifique. En tout cas, quand les gens lambda vont le voir dans la rue avec une tablette, personne va s'étonner de ce fait-là.
Et justement, à l'IME Cours de Venise, la psychologue Marie Schuster nous expliquait qu'il y avait un gros travail qui était fait vis-à-vis de l'extérieur et qu'ils avaient été voir les commerçants du coin pour les sensibiliser et que les jeunes qui sont dans la structure vont parfois, avec leur tablette justement, pouvoir acheter du pain, acheter un journal ou en tout cas interagir avec l'extérieur, parce que c'est important que ces outils, justement, ils ont l'aspect mobile, donc ils ne sont pas cantonnés à la structure. Hein. C'est-à-dire que toutes ces recherches, elles portent à la fois sur des améliorations de la vie en structure, mais aussi à domicile et à l'extérieur.
Oui, d'ailleurs, même si on prend des enfants qui passent une partie de leur vie ou de leur scolarisation dans un institut, ils vont bien, ne serait-ce que le week-end, à d'autres moments, ailleurs. Donc c'est important effectivement pour qu'il y ait des progrès. Restons sur l'exemple de la communication avec les pictogrammes, que l'outil, il soit partagé à la fois dans le milieu de l'institut ou de l'école, mais aussi dans la famille, dans la rue chez les commerçants. C'est pour ça que toutes les initiatives qui permettent justement de quelque sorte d'apprendre non pas seulement à l'enfant avec autisme, mais aussi à tout l'entourage au sens très large, c'est-à-dire les professionnels qui travaillent avec lui, la famille, l'environnement, disons les commerçants du coin par exemple, à comprendre, à connaître ce genre d'outils, va permettre justement de faciliter la communication. Alors que si on reste dans une utilisation dans un unique lieu, ça permettra pas justement d'avoir cette communication dans tous les lieux de vie de l'enfant. Et pourtant, le but, c'est bien qu'il communique partout et pas dans un seul lieu.
À l'inverse, alors on l'a vu, c'est très mobile, les outils numériques. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un frein ? Est-ce qu'à l'inverse...
Oui. Alors, restons sur l'exemple de la tablette. En fait, on a fait un questionnaire auprès d'enfants avec autisme, de parents et de professionnels, justement pour essayer de voir quels étaient les intérêts qu'ils trouvaient aux outils numériques, mais aussi les limites des éventuels points négatifs. Et si on prend l'exemple de la tablette, la tablette, elle se casse, par exemple. Alors, il y a des choses tout bêtement matérielles, mais qui sont quand même des points négatifs comme ça-là. Alors, heureusement, il y a du matériel qui permet de protéger des coques, des espèces de coques qui permettent, quand la tablette elle tombe par terre, en général, ça va à peu près, mais c'est quand même pas parfait. Donc il y a quand même des points négatifs. Et à travers ces questionnaires, si j'élargis au champ du numérique au-delà de la tablette, il y a des points négatifs qui ont été notés par certains parents, notamment au niveau du côté addictif de ces outils. Hein, c'est-à-dire, par exemple, un enfant va prendre sa tablette, regarder des vidéos YouTube en boucle pendant des heures, si on ne l'arrête pas. Donc, il y a bien sûr beaucoup d'avantages, mais néanmoins, il ne faut pas s'imaginer que c'est l'outil miracle qui va permettre, sans aucun problème, de résoudre toutes les difficultés liées à l'autisme.
11h midi, recherche et partage avec la FIERA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Pas un outil miracle, vous disiez à l'instant, Philippe Garnier. C'est vrai, il y a des difficultés spécifiques liées à l'usage, peut-être des fois parfois un peu trop intensif, en tout cas, des outils numériques, qu'on retrouve d'ailleurs pas seulement chez les autistes. Je pense que là, toute la population est concernée. Mais c'est vrai que spécifiquement, alors moi, j'ai découvert à l'IME Cours de Venise, du coup, ce qu'on appelle l'intérêt restreint, c'est-à-dire que, par exemple, certains autistes ont une problématique spécifique, ils vont faire un petit peu une focalisation sur un sujet. Alors, je peux saluer peut-être Paul, ce matin, qui nous a beaucoup amusé avec son intérêt restreint, que je ne dévoilerai pas parce que je respecte son intimité, mais c'est une vraie problématique, et face à un outil numérique, ça peut être effectivement vite addictif et pas forcément très éducatif ou très pédagogique.
Oui, dans le cadre des réponses aux questionnaires qu'on a eues, par exemple de la part des parents, on a eu des parents qui nous disaient que leur enfant avait tendance à effectivement regarder des vidéos uniquement sur leur sujet d'intérêt. Alors, ce sujet d'intérêt, c'est très spécifique à un enfant. On ne peut pas dire qu'il y a un sujet d'intérêt pour des autistes en général. Tel enfant, par exemple, va focaliser sur les dinosaures, va vouloir voir que des vidéos de dinosaures. Et dès qu'on va essayer de lui proposer autre chose, ça va être parfois un peu compliqué. Tel autre enfant, c'est avec les transports en commun. Enfin bon, il y a même parfois des intérêts restreints, qui est une caractéristique vraiment de l'autisme, l'intérêt restreint, qui sont très étonnants, qui sont extrêmement, extrêmement
un exemple, je vous vois sourire.
Oui, je pensais à un élève dont une enseignante m'a parlé qui ne s'intéressait qu'à Jean-Pierre Foucault. Voilà. Donc, ça prête vraiment à sourire. On se demande, mais qu'est-ce qui lui a passé dans la tête pour ne s'intéresser qu'à cet animateur? Mais donc, c'est très étonnant. Mais en même temps, dans la vie pratique, quand un professionnel ou un parent veut essayer de faire travailler l'enfant avec autisme sur autre chose, c'est parfois, alors faut pas trop généraliser, mais c'est parfois compliqué.
Et puis c'est compliqué aussi parce que le professionnel qui travaille avec l'enfant, il n'est pas forcément non plus formé, il n'est pas forcément au fait de toutes les nouvelles technologies, de l'usage qu'on en fait. Il faut que ça suive derrière la formation.
Mais tout à fait. Et ça, je voudrais vraiment souligner ce point, que ce n'est pas l'outil en soi qui va permettre de développer des compétences, que ce soit de communication, au niveau des interactions sociales. Cet outil, il est bien utilisé par un professionnel ou par un parent. Donc, c'est l'ensemble outil, mais avec le professionnel qu'il faut prendre en compte. Donc, pour que les professionnels, ou même les parents, puissent l'utiliser de manière pertinente, il faut de la formation. Il faut déjà un minimum de formation technique. Pour savoir comment ça marche, c'est pas évident. Pour des parents, tous les parents, par exemple, ne sont pas forcément habitués à avoir un outil numérique, même si ça se développe de plus en plus, c'est pas toujours le cas. Et puis aussi, sur un plan, qu'on pourrait dire, plus éducatif, plus pédagogique, apprendre à l'utiliser de manière pertinente. Et ça, malgré, par exemple, des outils qui sont assez intuitifs, comme la tablette, ça va quand même pas de soi. Et donc, la formation est indispensable. D'ailleurs, notre projet, globalement, va dans ce sens-là, de trouver des pratiques intéressantes utilisant ces outils numériques pour justement les diffuser, les partager et que des professionnels ou des parents qui jusque-là n'avaient pas du tout utilisé ces outils numériques avec leurs enfants avec autisme, justement puissent avoir des pistes d'action parce que d'autres professionnels auront auparavant déjà utilisé et ont vu ce qui marchait et ce qui marchait moins.
Oui, parce qu'il y a la revue de littérature, on disait, avec un certain nombre de recherches, une synthèse globale des questionnaires qui ont été envoyés aux partenaires et qui va être aussi publiée, qui sera mise à disposition. Et puis, cette dernière partie, les trucs et astuces un peu des professionnels, c'est-à-dire créer de l'échange, du lien, du réseau, que chacun puisse échanger sur son expérience et faire bénéficier, en tout cas, de cette expérience à tous. Alors, on le voit, les outils numériques, ils sont effectivement, ils ont beaucoup d'avantages. On a peu parlé du fait qu'avec un outil numérique, on a des réponses immédiates, qu'on peut répéter une action à volonté, qu'il y a énormément d'avantages, mais que je vous invite à découvrir plus tard, parce que là, on n'aura pas le temps de tout dire. Et il y en a un, en tout cas, dont on va peut-être entendre le son. On va entendre Karine, qui est institutrice, enseignante à l'IME Cours de Venise. Et elle commence à utiliser le tableau numérique avec des enfants de l'Institut.
La toute première approche, c'était avec Paint sur le tableau numérique. Et on traçait avec le doigt des formes et ça permettait de travailler tout ce qui était graphisme, motricité au sens large, avant d'aborder la motricité fine. Donc en ça, c'est intéressant parce que du coup, ils ont tout de suite la trace qui apparaît de ce qu'ils ont fait et ils n'ont pas la difficulté de devoir tenir le crayon ou le feutre qui parfois est déjà difficile pour eux avant même d'en faire une trace. L'intérêt avec le tableau, c'est que ça passe aussi par le corps et davantage par le corps, toujours au niveau de la motricité et du gestuel. Et quand on travaille avec des jeunes, quels que soient les jeunes, on travaille toujours sur trois types de mémoire, la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique qui passe par le corps. Et donc là, on a le visuel, l'auditif, éventuellement je commente ou pas en fonction des jeunes s'ils en ont besoin ou pas, et eux passent par le corps pour agir. Alors, je vous dis ce qu'ils peuvent faire aussi sur une table, mais là encore, c'est plus grand, c'est plus facile, peut-être plus visible aussi, plus facile d'accès pour eux.
Voilà, ça contrebalance un petit peu. On dit il y a des freins, il peut y avoir des addictions, ça peut être compliqué des fois de séparer un enfant de son écran. Mais le numérique, c'est pas que ça, c'est pas que la tablette face à laquelle on peut être seul. C'est un accompagnement avec des professionnels et c'est des interactions qui vont être pour le coup, démultiplié grâce à l'outil numérique parfois.
Oui, là par exemple, donc, on parle d'un tableau numérique interactif, donc on ne va pas avoir bien sûr les problèmes qui sont liés à des outils individuels comme les tablettes et le côté et qui pour certains peut être un petit peu enfermant avec je consulte ma vidéo en boucle, etc. Là, on est vraiment donc, dans un autre média qui a des points communs parce que c'est tactile, mais qui a aussi des différences, ne serait-ce que par la taille. L'enseignante a expliqué quel intérêt ça pouvait avoir donc, au niveau moteur, mais aussi donc, donc il y a d'autres intérêts qui peuvent être justement au niveau social, c'est-à-dire c'est un tableau où plusieurs enfants peuvent aller sur le tableau en même temps, et donc ce qui crée des interactions sociales, je ne sais pas, par exemple, réaliser un dessin en commun ou faire des activités comme celle-là, peuvent être intéressantes justement pour développer les interactions sociales.
Alors à chaque fois dans le cadre de ces recherches, on s'intéresse, c'est vrai, à des actions quotidienne, c'est-à-dire que c'est des recherches qui vont faire développer des compétences quotidiennes, j'allais dire extrêmement visibles. On va pouvoir voir si un enfant interagit plus. Bon. Est-ce qu'il y a aussi, et juste un mot là-dessus, une vision un peu plus long terme sur l'usage de ces outils numériques? Alors, on se doute bien qu'effectivement, changer le quotidien, ça change aussi un peu l'avenir, mais est-ce qu'il y a des recherches qui vont un petit peu plus loin que la vie quotidienne au jour le jour?
Alors, en fait, à ma connaissance, c'est vrai que la plupart des études que je consultais, ça reste au niveau temporel très, très limité dans le temps. Je n'ai pas connaissance d'études
d'un impact
à long terme sur les évolutions à long terme. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant d'avoir ce genre de travaux pour voir si les progrès ne sont pas juste dans l'année qui suit, admettons, mais que si on prend, par exemple, 5-10 ans après, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment des pistes de recherche qui sont tout à fait intéressantes. Et
envisageables, maintenant que la Fondation UEFA pour l'enfance et la FIRA vont aussi dans un autre temps de la recherche, dans un autre temps du programme Autisme et Nouvelles Technologies, lancer un appel à projet pour des types de recherches. On pourra peut-être faire des recherches à plus long terme sur ce sujet. Alors, je vais le rappeler tout de suite parce que sinon je sens on va oublier de le dire, mais cette revue de littérature avec un certain nombre de recherches, ce n'est pas exhaustif, c'est des fiches de synthèse, c'est une aide, une simplification à découvrir ce qui se fait dans le cadre autisme et nouvelles technologies. Elle va être en ligne à partir d'aujourd'hui sur le site de la FIRA et notamment sur le centre ressources de la FIRA. Et il y a un onglet qui s'appelle « Nos publications » et dans lequel vous trouverez en cliquant la revue de littérature. Et vous trouverez évidemment le lien pour vous rendre là dans le petit fichier qui va avec. Voilà, ça c'est dit. Prochaine étape, du coup, après cette revue de littérature, la revue de littérature et, je le rappelle, la synthèse des questionnaires et puis des trucs astuces. Une prochaine revue de littérature, il y en aura d'autres. J'imagine qu'il y a beaucoup de recherches quand même qui se font dans ce domaine.
Alors, peut-être pas dans le cadre de ce projet-là, puisqu'on a déjà fait quand même une revue de littérature assez conséquente. Vraiment, les axes qu'on privilégie dans cette deuxième partie de la recherche, c'est vraiment l'échange entre les professionnels de terrain. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'effectivement, je vous ai dit en début d'interview qu'en fait, il y avait 6 pays qui participaient. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait des échanges entre les différentes équipes des différents pays et qu'on voit ce qui puisse, que des bonnes pratiques qui ont été vues, je ne sais pas, en Suisse, puissent bénéficier aux professionnels français, vice-versa, idem avec les anglophones, et qu'on garde des traces aussi de ces échanges pour qu'au-delà des professionnels qui travaillent dans le cadre de cette recherche, eh bien, les bonnes pratiques, en tout cas les pratiques intéressantes, puissent être diffusées à tout le monde finalement, à tout professionnel ou tout parent qui voudrait investir dans des outils numériques et puis qui voudrait savoir que faire avec.
Voilà, pour gagner du temps et faire gagner du temps aux enfants concernés. Et voilà. Et j'en profite pour saluer aussi Marie-Claire Elwick, c'est comme ça qu'on dit, de l'Université de Mons, qui fait partie du programme et qu'on avait reçu dans le cadre d'une conférence annuelle de la FIRA. Voilà, donc salut à elle. Et puis avant de nous quitter, évidemment, je voudrais remercier quand même particulièrement toute l'équipe de l'IME Cours de Venise à Paris, dans le 3e, qui fait un travail formidable. Donc merci à Laurence, la directrice, à Camille, l'orthophoniste que vous avez entendu, Manuel, l'éducateur, Karine, qui est institutrice, on avait Marie, la psychologue, bien sûr. Et on va remercier aussi Jaoua Despaul et Luz. Voilà, merci à tous. Nous, on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Vivre FM. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller consulter le centre ressources.